mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon à croire que tout le monde aime la même chose?
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbère, nous commencerons par un conte d'Afrique de l'Ouest adapté par Marie Ferraud, intitulé « Le fagot magique ». Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons un texte de Mirabeau de 1791 au sujet de la liberté religieuse et de la laïcité. Viendra ensuite la rubrique « Environnement » avec un extrait de science-fiction de Jean-Marc Ligny, la parole de Fatima Wassak et la recette éco-geste pour réaliser un dégivrant pour pare-brise. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, pendant lequel nous parlerons plan de sauvegarde pour l'emploi. Chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti. Vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Ready for you guys to take one moment look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Le fagot magique. Conte d'Afrique de l'Ouest, adapté par Marie Ferraud.
Sur la plaine limoneuse et fertile de Diadjar se trouvait un village sans histoire, un de ces petits bourgs de la brousse africaine où chacun partage le mil et le manioc avec son voisin et où la misère n'apparaît que les années de grande sécheresse. Il s'appelait Cœur Ndiadjar, c'est-à-dire le village de ceux qui voient. Une année, un vent violent souffla du nord. Il arracha les toits de chaume, déracina les palétuviers énormes du marigot, labourant la terre et bouleversant les plantations. Il s'en fallut même de peu pour que les jeunes enfants ne fussent emportés par le tourbillon gigantesque qui saccageait le village. Mais le pire était encore à venir. Quand au matin de cette nuit de cauchemar, les habitants de Cœur émergèrent, hagards, de leurs cases dévastées, ils étaient aveugles, tous, tous, sauf le fils aîné de Mort, le potier du village, un garçon de 17 ans, du nom de Baran, qui, la veille, était resté chez un oncle, de l'autre côté du marigot. Quand Baran, ce matin-là, s'en retourna chez lui, ce fut pour découvrir son village détruit et entendre les lamentations d'une population désormais vouée aux ténèbres. Au premier rayon du jour, Mor appela son fils. « Baran !» lui demanda-t-il. « Que fait le village ? Dis-le-moi, toi qui vois encore. Père, tu entends d'ici les pleurs et les gémissements. Chacun tâtonne à la recherche des siens ou de son toit. » Une immense tristesse voila le visage du père. « Baran, mon fils, il nous faudra un très long apprentissage avant que nous retrouvions le chemin des champs, et nos greniers sont loin d'être pleins pour l'hiver. Alors, va, mon fils, va vendre le chameau qui nous reste. Va, et vends-le avec de la chance. » Et Baran, tenant le chameau par son licol, s'en fut par les sentes et les pistes à travers la brousse, là où les gens y voyaient encore et pourraient lui acheter la bête avec de la chance. Il passa par des pays de sable, aux maigres pâturages, des pays désolés et arides, où personne ne s'offrit à lui échanger son chameau. Il traversa le grand fleuve, loin vers l'est, franchit une haute montagne, celle-là même qu'on apercevait de cœur et qui s'appelait Mont de Pierre. Un soir, il rencontra une longue caravane de bœufs lourdement chargée. « Voilà un chameau qui ferait bien mon affaire !» déclara le chef de la caravane en croisant Baran. « Est-il à vendre ?»« Il est à vendre, » répondit Baran. « Combien en veux-tu ? Que m'en offres-tu ? « Je t'en donne 3 bœufs, avec leur charge de 1000. »« C'est tout ?» interrogea Baran. « 4 bœufs, avec leur charge, alors. »« C'est tout ? Tu n'as rien à ajouter ?»« Oui, c'est tout. »« Et je trouve que c'est beaucoup, » riposta le chef de la caravane avec bon sens. « Ce n'est pas ce que j'attendais, » déclara le jeune homme, et il poursuivit sa route. En chemin, Baran réfléchit. « 4 bœufs chargés de 1000. » C'était là le prix de son chameau sans aucun doute. Avec tout ce grain, sa famille pourrait passer la mauvaise saison sans inquiétude, mais son père lui avait recommandé de vendre l'animal avec de la chance. Or, le chef de la caravane n'avait pas ajouté « avec de la chance » à son prix. C'était la raison pour laquelle Baran n'avait pas cédé le chameau. Et le garçon s'en était allé plus loin, très loin. Il traversa le pays des chercheurs d'or, un pays où des jeunes filles fraîches et turbulentes tamisaient le sable des rivières. Son chameau y fit grand effet. Dans les villages lacustres du pays de l'or, on lui en offrit des pépites grosses comme le pouce, des calebasses pleines de poudre dorée. Contre son chameau encore, on lui proposa des tissus merveilleux, teint des plus beaux bleus de l'indigo, des pagnes et des boubous ouvragés et ornés de fils d'or et d'argent. Des hommes plus riches encore lui proposèrent, en échange, des greniers pleins de mille et des ânes gros et gras pour porter le grain de vie. Mais personne ne prononça une seule fois la petite phrase de Mor « avec de la chance ». À quoi serviraient ces fortunes ? Pensait Baran. « Mon père a dit de vendre l'animal avec de la chance. On ne l'achètera pas moins. » Et Baran n'avait pas voulu céder son chameau. Et il s'en était allé plus loin encore. Il rencontra d'immenses troupeaux qui descendaient s'abreuver vers le grand fleuve. Des veaux déjà cornés, des génisses grasses et lustrées, des taureaux pleins d'ardeur, des vaches aux mamelles lourdes. Ils étaient conduits par des bergers qui admirèrent le chameau de Baran. Ils en offrirent un bon troc, un taureau et sa femelle, ou plusieurs femelles et leur veau, mais aucun parmi eux n'ajouta à son prix les mots que Baran espérait « avec de la chance ». Le troc n'eut pas lieu, et le fils de Mor du village de Cœur s'en était allé loin, plus loin encore. Il atteignit un jour un pays de pierres noires, un pays sec et tout pelé, entouré de montagnes infranchissables couvertes d'arbres vénéneux. Au milieu du jour, alors qu'il cherchait un moyen de traverser ces montagnes, Baran rencontra un vieillard en haillons, ployant sous un fagot d'épineux. « Où te mènent tes pas, mon fils ?» s'enquit le vieillard après les salutations. « Je vais vendre ce chameau, » soupira Baran. « Tu ne trouveras aucun acquéreur dans ce pays. Regarde-moi. Tel que tu me vois, je suis parmi les moins pauvres, moi qui ne possède que ce fagot d'épineux que j'ai eu avec de la chance. Oh, veux-tu acheter mon chameau, vieil homme ? Demanda alors Baran plein d'espoir. Je ne pourrai te l'acheter, petit, que contre ce maigre fagot trouvé avec de la chance. Il est à toi, dit Baran en tendant le licou qui retenait le chameau. Mon père sera content. J'ai vendu son chameau avec de la chance. Et Baran céda l'animal au vieillard contre le fagot de bois mort. Et la petite phrase de mort avec de la chance. Son fagot sur le dos, il retourna chez lui, à Kher Ndiadjar. Tout au long du chemin, aux gens qui l'interrogeaient sur la vente du chameau, il racontait son histoire. On se moqua de lui, on le traita de fou. Il arriva à Kher à la fin d'un jour triste et froid. Un soleil blanc, sans chaleur, éclairait vivement les champs abandonnés qui grelottaient sous la bise. Jamais Kher ne lui avait paru aussi désert, aussi misérable. « Père, j'ai vendu le chameau, » dit-il dès le seuil de la case familiale. Dans la clarté sourde d'un maigre feu, son père se redressa un peu sous sa couverture. Baran vit aussi ses deux sœurs, Panda et Fatih, serrées l'une contre l'autre et tremblant devant l'âtre. Tous trois avaient un visage las et le regard vide. Le froid était à couper au couteau. « Combien as-tu vendu le chameau, fils ?» s'informa Mor. « Où as-tu déposé le prix ?»« Il est là, devant toi, père. Je l'ai vendu contre un fagot d'épineux. »« Un fagot d'épineux ?» Mor ne comprenait pas. « Oui, père. » Un fagot de bois mort, j'ai troqué ton chameau au seul acheteur qui m'a offert son prix en ajoutant tes propres mots avec de la chance, comme tu me l'avais dit.
Hélas, gémit Mor, notre misère ne peut être plus grande. Baran, mon pauvre fils, vois, le feu se meurt, que ton fagot nous serve donc. Porte-nous quelques brindilles, peut-être grâce à lui. Le froid nous épargnera-t-il encore cette nuit ?
Baran cassa alors quelques brindilles et attisa la braise mourante. Puis il jeta une brassée de bois mort dans le foyer. Une flambée jaillit aussitôt, léchant le bois. Et soudain, alors que le garçon allait aider son père à se rapprocher du foyer, Mor et les deux fillettes poussèrent un cri.
« J'y vois !
J'y vois !
J'y vois !»
Mor prit une brindille, d'une main tremblante. Panda et Fatih en firent autant. Tous trois les approchèrent de la flamme et les promenèrent devant leurs yeux qui renaissaient lentement à la lumière. Ils voyaient. Mor fut le premier dehors. Il héla tous ceux qui passaient en tâtonnant le long des murs, les entraîna vers la case et le foyer miraculeux. Tandis que Baran et ses deux sœurs portaient l'extraordinaire nouvelle de ruelle en ruelle, de case en case. Et bientôt, on vit tous ceux du village, grands et petits, vieux et jeunes, hommes et femmes, se diriger en longue procession, muette et tâtonnante, vers la demeure du potier. Chacun approchait de ses yeux morts une brindille enflammée du misérable fagot de Baran, et le miracle s'accomplissait. Le vieillard loqueteux du pays des pierres noires avait vraiment payé le prix du chameau. À Kher et ailleurs, plus personne jamais ne se moqua de Baran le fou. Mais pour conjurer le sort et éloigner les esprits malfaisants, les habitants de Kher Ndiadjar, le village de ceux qui voient, débaptisèrent leur village et l'appelèrent Ngumbé, ce qui veut dire cécité.
Les allumeurs de réverbères.
Les discours politiques.
tu vas arrêter de crier, s'il te plaît?
Bah, tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison. Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs. Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Oh.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne, on prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Janvier 1791. Mirabeau contre la déclaration d'une religion nationale. Déclarée nationale, la religion chrétienne eût été flétrir le caractère le plus intime et le plus essentiel du christianisme. En général, la religion n'est pas, elle ne peut être un rapport social. Elle est un rapport de l'homme privé avec l'être infini. Comprendriez-vous ce que l'on voudrait vous dire si l'on vous parlait d'une conscience nationale? Eh bien, la religion n'est pas plus nationale que la conscience, car un homme n'est pas véritablement religieux parce qu'il est de la religion d'une nation, et quand il n'y aurait qu'une religion dans l'univers, et que tous les hommes se seraient accordés pour la professer, il serait encore vrai que chacun d'eux n'aurait pas un sentiment sincère de la religion qu'autant que chacun serait de la sienne, c'est-à-dire qu'autant qu'il suivrait encore cette religion universelle quand le genre humain viendrait à l'abjurer. Ainsi, de quelque manière que l'on envisage une religion, la dire nationale, c'est lui attribuer une dénomination insignifiante ou ridicule. Serait-ce comme juge de sa vérité ou comme juge de son aptitude à former de bons citoyens que le législateur rendrait une religion constitutionnelle? Mais d'abord, y a-t-il des vérités nationales? En second lieu, peut-il jamais être utile au bonheur public que la conscience des hommes soit enchaînée par la loi de l'État? La loi ne nous unit les uns aux autres que dans les points où nous nous touchons. Or, les hommes ne se touchent que par la superficie de leur être. Par la pensée et la conscience, ils demeurent isolés, et l'association leur laisse, à cet égard, l'existence absolue de la nature. Enfin, il ne peut y avoir de national dans un empire que les institutions établies pour produire des effets politiques. Et la religion n'étant que la correspondance de la pensée et de la spiritualité de l'homme avec la pensée divine, avec l'esprit universel, il s'ensuit qu'elle ne peut prendre sous ce rapport aucune forme civile ou légale. Le christianisme, principalement, s'exclut par son essence de tout système de législation locale. Dieu n'a pas créé ce flambeau pour prêter des formes et des couleurs à l'organisation sociale des Français, mais il l'a posé au milieu de l'univers pour être le point de ralliement et le centre d'unité du genre humain. Que ne nous blâme-t-on aussi de n'avoir pas déclaré que le soleil est l'astre de la nation et que nul autre ne sera reconnu devant la loi pour régler la succession des nuits et des jours.
Allumeurs de réverbères.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
L'île, de Jean-Marc Ligny. Extrait présent dans l'anthologie officielle des Utopiales 2022. Alors, grand-père, tu vis tout seul ici ?
Oui, avec mon chat.
Ah ! Regard circulaire sur la végétation putréfiée, les eaux boueuses, le phare écroulant.
Et tu tiens le coup ?
C'est la fin, admet l'ancêtre.
Je vais mourir ici. C'était ma terre natale.
Je vois, opine la fille, plus jeune et tatouée au bras seulement. Et les tiens, tous partis ?
Évacués, vers le continent, dans un camp. Je n'ai pas voulu les suivre. Je préfère mourir ici, chez moi, dans la dignité.
Je vois, répète l'autre homme, jeune aussi, sans doute le mari ou compagnon de la femme, vu comme elle le regarde.
Mon seul souci, reprend le vieillard, mais il hésite, tellement cela risque de trouver ça futile.
Oui, l'encourage l'aîné.
C'est mon chat, se lance-t-il.
Tant pis s'il se gausse.
Lui n'a pas demandé à mourir ici.
Il croit encore que la vie va lui sourire, et je n'arrive pas à me résoudre à le tuer.
Il ne se moque pas, au contraire. Il hoche gravement la tête, compatissant.
Encouragé, il poursuit.
Vous paraissez en bonne santé. Vous avez un beau bateau, un var, presque neuf. J'ignore d'où vous venez, mais vous avez l'air de bien vous en tirer.
D'une île, plus au nord, répond le quinquagénaire, qui possède une petite montagne, un lac, quelques sources. On a les pieds au sec, on cultive un peu dans la montagne, on élève quelques poulets-cochons, et il y a des grottes où s'abriter quand surviennent des cyclones ou des vagues de chaleur. Oui, on s'en sort pas trop mal, on peut dire ça.
Je vois, répète l'ancêtre à son tour.
Et avec de telles conditions, vous n'avez pas été envahi ?
L'île est entourée de coraux morts. Elle est un peu difficile d'accès, précise le jeune homme.
Et puis, quand les communications fonctionnaient encore, reprend l'autre homme, on a répandu la rumeur comme quoi on était porteur d'un virus mortel et très contagieux, qui tue en quelques heures, ça dissuade.
Tu en as peut-être entendu parler ? S'enquiert la fille.
Le vieillard hoche la tête.
Oui, en effet. Il y a 15-20 ans de cela, le Banabavirus ou un nom comme ça, la nouvelle s'est répandue dans tout l'archipel sans que personne du reste ne soit contaminé. Mais l'île en question a été déclarée interdite, en quarantaine, pour une durée indéterminée. Il n'y avait guère prêté attention à l'époque. Il y avait plusieurs autres virus mortels et contagieux qui circulaient et doivent toujours circuler de par le monde. Mais les transports internationaux se faisant plus rares, les Iliens se sentaient un peu protégés et surtout avaient des problèmes bien plus graves à résoudre, genre comment et où survivre. Ainsi, c'était une illusion, visant à dissimuler un paradis perdu.
Le vieux ne sait s'il doit admirer ou condamner une telle supercherie.
« Et le bateau ? »
s'enquiert-il.
« Il est beau, hein ?» lance fièrement le jeune en se tournant vers le trimaran au large, doucement bercé par la houle.
« Il a des voiles solaires. Il produit sa propre énergie qui peut alimenter un moteur électrique au besoin et nous fournit de l'électricité même à quai si on hisse les voiles.
On l'a trouvé échoué dans les coraux. » explique la femme. Ses propriétaires, des milliardaires blancs qui se rendaient sans doute en Nouvelle-Zélande, n'ont hélas pas survécu.
Petit sourire en coin.
Il nous sert à plein de choses.
Fatima Wasak, 2020. Propos recueillis par Marie Astier et Hervé Kampf. Extrait de l'interview présente dans le recueil « L'écologie du XXIe siècle » présenté par Hervé Kampf.
Il y a l'idée que l'écologie ce n'est pas pour tout le monde, que c'est réservé aux classes moyennes et supérieures blanches. La question du climat était, un peu moins maintenant, considérée comme une question très lointaine, réservée aux riches, tandis que nous, on s'occupe de notre chômage. Autre exemple,
J'ai participé à un débat avec Jade Lingard. Elle m'a demandé ce que je pensais du rapport de l'IPBES sur la biodiversité. Dans ce rapport, j'ai lu des noms d'animaux que je n'avais jamais vus. Dans notre vie, on n'a accès qu'à des lieux où la biodiversité est très limitée. Dans les quartiers, la préoccupation principale concernant les animaux, c'est l'extermination des rats et des cafards. Par ailleurs, il était très compliqué de faire comprendre à des écologistes que dans les quartiers, il peut y avoir des enjeux écologistes. Les écologistes de Bagnolet ne sont jamais venus nous voir en disant qu'il faut éviter de manger de la viande industrielle ou que les pesticides, c'est dangereux. Jamais. Alors que c'est leur boulot de faire cela. On ne vient dans les quartiers que pour parler de polémiques, comme les sorties scolaires avec les femmes voilées. Enfin, quand on se mobilise sur des questions que n'importe quel écolo qualifierait d'écologiques, on est disqualifié, invisibilisé, récupéré. Cela donne l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans les quartiers populaires autour de l'écologie. J'ai pu l'expérimenter à Bagnolet, car il s'en est fallu de peu que l'on retienne que c'est Greenpeace et la FCPE qui ont demandé le repas végétarien à l'école. C'est pour cela qu'il est important pour moi de laisser des traces, d'écrire, de médiatiser. Après, il est encore possible d'apprivoiser le mot « écologie ». Les mots « laïcité »,« citoyenneté » ont été tellement utilisés contre nous qu'on ne peut plus les entendre. Le mot « écologie », si. Et il correspond à tellement de choses que l'on vit dans les quartiers. Et enfin, pour finir cette rubrique environnement, la recette éco-geste pour vous et pour faire plaisir à vos proches. La recette du dégivrant express pour pare-brise. En ces matinées d'hiver où les gants glissent sur le grattoir qui ripe sur le pare-brise, provoquant douleur, retard et énervement, voici la recette du dégivrant express pour pare-brise. Dans un flacon équipé d'un spray de 200 ml par exemple, versez 100 ml d'eau. Versez 100 ml d'alcool ménager. Fermez le flacon. Secouez le flacon. C'est prêt. Vous venez de créer un excellent dégivrant express pour pare-brise.
Les allumeurs de Réverbère vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de Réverbère.
Plan de sauvegarde de l'emploi, version en vigueur au 25 novembre 2024. Article L1233-61. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualifications rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaires à la sauvegarde d'une partie des emplois, et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise, les dispositions de l'article L1224-1 relative au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements à la date d'effet de ce transfert. Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance numéro 2017-1387 du 17 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance. Article L1233-62. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que, petit 1, des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emploi ou équivalent à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord express des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure. Petit 1 bis, des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements. Petit 2, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise. Petit 3, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin de l'emploi. Petit 4, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés. Petit 5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents. Petit 6, des mesures de réduction ou d'aménagement de temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. Article L1233-63. Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L1233-61. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan établi par l'employeur de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi. Article L1233-64, les maisons de l'emploi peuvent participer dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées à la mise en œuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. Pour plus d'informations, rendez-vous à la sous-section 1 de la section 6 du chapitre 3 du titre 3 du livre 2 de la première partie de la partie législative du Code du travail.
C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de l'autre radio ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour, habillage musical Chaban Musique. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.